Boomerang avec Virginie Despentes, c'est parti. Est-ce que vous le suivez, vous, le feuilleton du moment? Est-ce que vous êtes curieux, fidèle ou même accro, qui sait, au point de guetter nerveusement chaque rebondissement? Est-ce qu'il vous arrive parfois de rester bloqué devant l'écrit ou l'écran dans l'attente fébrile du prochain épisode, de la saison suivante ou de la fin si redoutée qu'on pourrait presque en pleurer? Le feuilleton du moment avec ses drames, ses larmes, ses intrigues, ses couacs quasi quotidiens. Est-ce que c'est l'affaire Ferrand, votre série immobilière, ou alors l'affaire Thévenoud qui entame une deuxième saison qui revient au galop? Alors sans vous spoiler, c'est Waterloo. Est-ce que vous suivez le Hanouna Gate qui emprunte au grand guignol autant qu'à l'épouvante et au mélo? Ou alors la série Macron à l'international qui est une genre de variation sur Martine à Versailles où Martine prend l'avion, c'est très bon. Notre feuilleton, celui qui rassemble, celui qui rassure, celui qui saisit ce monde qui ne tourne pas rond. Est-ce que c'est la mort annoncée de la droite et de la gauche? Les errances de Donald Trump? La danse des Français à Roland-Garros, la série The Leftovers dont on attend comme le Messie le dernier épisode de la dernière saison comme si ça pouvait changer quelque chose. C'est fou comme le feuilleton n'a semble-t-il jamais été aussi apprécié.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est en l'occurrence l'auteur d'un des feuilletons du moment. Le troisième volume de Vernon Subutex qui vient de sortir achève sa grande fresque romanesque. Vernon Subutex, du nom de son héros, ancien disquaire, mi-gourou, mi-DJ, autour duquel gravitent des individus un peu perdus en quête de collectif dans un monde miné par la haine, la peur, l'individualisme. Bonjour Virginie Despentes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Le feuilleton du moment, je me suis demandé c'est lequel pour vous? Il y en a un que vous suivez volontiers?
Moi, je les suis un petit peu, tous ceux que vous venez de citer, on les suit un peu tous, non?
Plutôt Macron, Ferrand, Hanouna, Trump, Roland.
Tous, bon, ouais, dans tous et d'autres. Et notamment, il y a un journal qui l'a bien mis en feuilleton, c'est Les Jours. Je ne sais pas si vous lisez Les Jours sur Internet. Chaque journaliste prend un thème comme ça et le suit
l'article en article
de Libération. Et c'est vrai que la forme feuilleton convient bien au thème choisi. Ouais.
Le feuilleton du moment, vous en êtes à quelle saison, vous? Ça ne s'arrête jamais, c'est ça le principe d'un feuilleton, en fait.
Bah, quand ça s'arrête, ce n'est pas bon signe. Hein.
Il faut pourtant qu'il se termine un jour, ce feuilleton. Quelle histoire, qu'est-ce que nous raconte cette tentation du feuilleton aujourd'hui, à votre avis, Virginie Despentes, sur aujourd'hui, sur la France, sur le monde?
Bah, le fait qu'on le pense comme un feuilleton, ça veut dire qu'on a conscience de l'idée que c'est une histoire qu'on se raconte, c'est une narration, donc, parce que sinon ça a toujours été un feuilleton. Mais là, qu'on le comprenne comme ça, je pense que ça veut dire qu'on prend conscience de... On pourrait se le raconter d'une autre façon. On a une façon de se le raconter, elle n'est pas unique, quoi.
Parce que c'est une forme, c'est vrai, qui infuse la culture et énormément depuis quelques années, votre littérature aussi. Quand est-ce que vous êtes rendu compte, vous, qu'avec Vernon Subutex, vous écriviez un feuilleton, justement?
Je m'en suis rendu compte très tard. Je m'en suis rendu compte au moment de publier le livre, il y a 2 ou 3 ans. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça marchait, à force de regarder des séries, ça marchait comme une série, comme un feuilleton. Et c'est vrai que je l'ai... Du coup, je l'ai assumé comme tel, quoi.
Parce que vous dites que vous ne l'auriez pas écrit de la même façon, effectivement, si vous n'aviez pas regardé autant de séries. Mais quelles séries, justement?
Toutes les séries. Là, c'est devenu tellement presque un rituel. Je regarde pratiquement plus du tout la télévision, par exemple. Alors qu'avant, je la regardais pas mal. Et parce que je regarde des séries à peu près tous les jours. Là, je suis en train de regarder The Get Down, dont on m'avait pas dit du bien, alors qu'en fait, elle est absolument géniale.
Sur l'histoire du hip-hop,
ouais,
c'est ça?
Ouais, elle est vraiment géniale, quoi. Et c'est ce qui est génial en ce moment avec la série, c'est qu'il y en a, je sais pas, 30 par an qui sont incontournables, quoi. Et ça, c'est quand même, un mode d'expression comme ça est dans sa grande époque. Je trouve ça génial de le vivre en direct, quoi, réellement.
Dans Vernon Subutex, c'est The Walking Dead qui est ultra
présent. Il y a The Walking Dead, ouais, parce qu'effectivement, j'étais en train de rendre... Comme ça prend beaucoup de temps de regarder tout The Walking Dead, ça m'a pris du temps pendant l'écriture aussi, quoi. Mais il y a aussi les Hells Angels qui apparaissent. Les Hells Angels, c'est... Comment ils s'appellent? Bref, j'ai regardé quelques classiques pendant la rédaction de... Parce que c'est vrai que ça va bien quand on écrit toute la journée de pouvoir regarder des séries le soir.
C'est Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy, voilà.
Et qu'est-ce que les séries ont apporté à votre façon de raconter une histoire précisément, à votre avis?
Je pense que ça développe, enfin chez moi en tout cas, qu'est-ce que c'est en tant que spectateur ou en tant que lecteur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est attendre de pouvoir retrouver des personnages et des situations et une forme qu'on a appréciée, sinon on l'attend pas, quoi.
Une plus grande liberté, du coup.
Ouais, puis c'est pas le même rapport, parce que normalement, jusqu'alors, tu lis un roman, même s'il est long, même s'il est prenant, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Ouais. Là, c'est plus revenir sur... C'est pas non plus un personnage, c'est pas les six menons, bon, parce que je serais incapable de les écrire, moi aussi, parce que c'est pas ça. C'est retrouver vraiment une forme entière avec tous les personnages, la situation, et pouvoir l'attendre, là, par exemple, pendant 2 ans. Et je sais que c'est quelque chose, finalement, en tant que spectateur, que j'apprécie, quoi.
Je sais, Virginie Despentes, parce que vous m'en avez déjà parlé, qu'à vos débuts, vous étiez nourrie de littérature du 19e siècle, pour chaque roman que vous écriviez. La littérature du 19e, qui est l'âge d'or du feuilleton, en l'occurrence, l'ancêtre de la série. La tentation de la série, chez vous, en fait, c'était déjà écrit, depuis toujours.
En fait, oui. La forme feuilleton va tellement bien avec la forme roman. Le pas à franchir, ce serait de publier le roman réellement en feuilleton, tous les 15 jours, par épisode. Quoi,
chiche.
Et ça, j'y pense et en même temps, je pense que c'est trop de stress. Après, je vais tomber malade.
C'est-à-dire que vous pouvez l'écrire auparavant et puis le diffuser petit à petit. Ouais, c'est ce que faisait Balzac, par exemple.
Ouais, et je pense que Balzac souffrait un peu d'angoisse, non ? Si j'en crois les biographies de Balzac, je pensais que c'était un garçon qui n'était pas confortable dans sa... dans son quotidien. Et non, parce que c'est vrai que c'est bizarrement, c'est angoissant d'écrire et de publier. Donc, si on le fait une fois tous les 2 ans, cette angoisse de la publication, ça va. Si on le fait toutes les 15 jours, je pense peut-être on meurt, je sais pas.
Vous êtes du genre à tout prévoir, vous, quand vous écrivez, Virginie Despentes ?
Je suis du genre à tout prévoir et à me tromper surtout.
Oh.
Ouais, mais c'est pas, je m'adapte après. Hein,
exemple, donc, qu'est-ce qui vous a surpris ?
Je pensais écrire un roman très court, je pensais écrire le 3e tome en 2 ou 3 mois. Je pensais à chaque fois, je prévois les choses très bien, elles sont très claires dans ma tête. Et après, ça se passe, je suis amené ailleurs.
Après, ça part en sucette.
Ouais, ou ailleurs. C'est pas forcément moins bien que ce que j'avais prévu, hein, mais c'est autre chose.
Et puis le monde invite à la surprise, il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu.
On peut pas dire.
C'est évidemment les attentats. Ceux de janvier, Charlie Hebdo et l'hypercacheur, ceux du 13 novembre aussi, qui sont omniprésents dans Vernon Subutex. Qu'ils ont changé, pas seulement pour vous, mais pour le livre en fait, que vous étiez en train d'écrire.
Ils changent la tonalité du livre, ils changent, je pense, la tonalité de notre façon, notamment d'être en ville, notre façon de nous exprimer sur l'actualité, les prises de parole et de pouvoir des uns et des autres, et puis ils changent même ils changent notre façon d'être en ville, je pense. Ils changent notre façon de nous regarder, de surveiller ce que fait l'autre, ils changent notre façon de circuler dans une gare, ils changent nos façons de rentrer dans un magasin, ça change notre quotidien. Et les attentats sont passés, on peut penser à autre chose, mais ça s'est passé.
Et donc ça change une façon d'écrire.
Si on écrit, en ce qui me concerne, j'écris sur la contemporanéité, sur ce qui se passe maintenant. Il me paraît difficile d'écrire, d'essayer de parler de Paris en 2016 et de pas évoquer les attentats. Ça me paraîtrait ou alors faudrait que ce soit vraiment très très particulier, une histoire qui est en dehors de... Mais une ville comme Paris, sans les attentats, on peut pas la décrire aujourd'hui.
Alors c'est peut-être ça le feuilleton du moment, la menace, la peur.
Mais il n'y a pas que les attentats, hein, parce que... Il y a les attentats, parce qu'on sait que quelque chose va arriver de nouveau, et on ne sait pas où, ni quand, ni dans combien de temps, ni avec quelle intensité... Mais après, il y a d'autres feuilletons terrifiants. Il y a le feuilleton des réfugiés, parce que vu que c'est un problème qu'on peut pas confronter, que la seule réponse qu'on a à faire, c'est ah ben non, ça nous arrange pas. Ouais, mais ça nous arrange pas. Mais ça les arrange pas non plus. Ils sont là. C'est comme ça. Faut absolument le gérer, le dealer, le confronter. Et ça, ce feuilleton, par exemple, il est pas terminé. Le feuilleton Trump, il est pas terminé non plus. Le feuilleton Trump, il aura des conséquences dans nos vies directes, a priori. Pas certainement, mais très probablement.
C'est-à-dire que le principe du feuilleton, c'est précisément ce que vous dites, qu'il n'est pas terminé. Alors peut-être qu'écrire, c'est une façon de le poursuivre, d'en imaginer des fins.
Écrire, je pense, c'est surtout une façon d'essayer. En ce moment, si j'essaie de réfléchir à ce que quelqu'un comme moi essaye de faire, c'est une façon d'essayer de ranger, d'ordonner, parce qu'on a une sensation de profusion, de nouvelles informations, de nouvelles situations, de nouveaux feuilletons, de nouvelles péripéties dans les feuilletons. Et juste l'idée d'essayer de le regarder d'une certaine façon en l'ordonnant. Je pense que c'est un des sens du roman. Ouais.
Et ça marche ?
En tout cas, j'essaye de le faire. Écoute, après, je sais pas.
On en reparle, Virginie Despentes, juste après un point sur la culture et son actualité que l'on feuilletonne ici, qu'on feuillette, qu'on effeuille à loisir. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 30 mai ?
Edmond.
Merci.
5e Molière de la soirée pour Edmond d'Alexis Chanik.
Tout est bon dans l'Edmond hier soir lors de la 29e nuit des Molières. Edmond d'Alexis Michalik sur la jeunesse de Cyrano a triomphé en raflant 5 récompenses, dont celle du meilleur spectacle de théâtre privé. Juste derrière, on trouve les Viscontiens d'année, mis en scène par Ivo Vanhove, qui repartent avec 3 statuettes. Par ailleurs, l'incontournable Isabelle Huppert a reçu un Molière d'honneur, tandis que James Thierry s'est imposé comme metteur en scène d'un spectacle de théâtre public grâce à La Grenouille avait raison, dont il était venu nous parler à ce micro. Bravo les cocos.
Où es-tu mon âme?
L'amour en collectif, la FNAC part en live, la 7e édition du festival gratuit FNAC Live qui se tiendra du 6 au 8 juillet prochain sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris s'annonce bouillante en exclusivité totale ce matin. On est en mesure de vous annoncer que l'événement accueillera près de 28 concerts. Pour ambiancer les foules, on pourra compter sur l'électrisante Fishback, l'envoûtante Juliette Armanet, mais aussi François and the Atlas Mountains, Polo et Pan et The Pirouettes. C'est chouette.
Y a pas photo ?
Ah si, justement, il y en a même 2 millions de photos. L'association Photo Consortium vient de mettre en ligne une collection titanesque de photos d'archives réalisées sur le territoire européen durant le premier siècle de la photographie. Véritable mine d'or pour les amateurs comme pour les historiens. Le projet mêle clichés d'anonymes, images de grands maîtres tels que Man Ray ou Karl-Heinrich Lemmel. Pour ce voyage dans le temps, rendez-vous à l'adresse www.europeana.eu. On en prend plein la vue.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens.
Ils ont dressé leur estrade et tendu leur calicot au domaine d'eau de Montpellier. La 31e édition du Printemps des comédiens, rendez-vous incontournable et international des arts de la scène, s'installe pour un mois dans la cité de l'Hérault. 60 000 spectateurs sont attendus pour découvrir près d'une vingtaine de spectacles, dont l'enchanteresse Chambre en Inde d'Ariane Nouchkin, Lenga, le spectacle arc-en-ciel de la compagnie GDRA, ou la sadienne Justice en lecture par Isabelle Huppert. De quoi laisser au fond du cœur de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Virginie Despentes, invitée de Boomerang ce matin. Virginie, vous êtes curieuse, vous savez qu'ici la curiosité n'est pas un vilain défaut, loin de là. Qu'est-ce qui a piqué votre curiosité dans cette actualité de la culture ? Est-ce que ce sont plutôt les Molières ? Est-ce que vous êtes théâtre ? Le festival de musique FNAC à Paris, vous qui êtes férue de musique ? Ou alors la photo, voir les comédiens ? Ou Aznavour ?
Aznavour ? Non, tout, mais je ne vais pas beaucoup au théâtre, je ne regarde pas beaucoup la photo, parce qu'on n'est pas très bien à la photo, donc peut-être la musique le plus, mais non, mais voilà.
La musique qui est au centre, évidemment, de votre univers, de l'univers de Vernon Subutex. Depuis quand est-ce qu'elle fait partie de votre vie, la musique ?
Depuis toujours, je suis née en 69, je pense qu'on est, pour le coup, on a été... On a grandi avec la musique, avec des tourne-disques, ça c'était les années 70, avec la radio dans la voiture. Enfin, je pense qu'on est la première génération. C'est une génération qui grandit avec Internet, nous on était une génération qui a grandi avec la musique.
Et dans quelle mesure elle vous a appris à écrire, la musique ?
Totalement, en ce qui me concerne, parce que je pense que les textes, les premiers textes que j'ai vraiment pas étudié, mais que j'ai appris, que j'ai réfléchi, que j'ai appris à lire, vraiment à déchiffrer complètement, plus que la poésie, ça a été des textes de musique en français ou en anglais.
À l'aide d'un prof, je crois.
À l'aide d'un prof, mais aussi toute seule, parce que dès qu'on était, il y avait quelque chose de fascinant dans cette façon de transmettre la poésie, parce que c'est quand même une forme poétique, la chanson, quoi. Et, enfin, une forme. Toute la poésie peut pas rentrer dans la chanson, mais en tout cas, toute la chanson, c'est une poésie. Quoi.
C'est fou de commencer par une chanson, un texte court, et finir par ça, un si grand feuilleton.
Oui, mais le rythme à l'intérieur elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on dit qui n'est pas exprimé, qu'est-ce qu'on coupe, comment ça doit rouler, qu'est-ce qu'on peut se permettre. Parce que aussi, pendant longtemps, la musique, ça a été un endroit où on pouvait écrire absolument tout. Parce que la censure, ça battait pas de la même façon, il y avait pas la même surveillance qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout doit être soumis à la vigilance de tous, quoi. Il y a eu longtemps, il y a eu des niches. Donc, on faisait ce qu'on voulait dans les années 80. Personne n'allait regarder ce que les groupes punk français racontaient dans leurs textes. Donc, tout était possible.
Je sais que chaque roman est lié pour vous à un album, à l'écoute d'un album. Pour le troisième tome de Vernon Subutex, c'est lequel ?
Ça a été bizarrement Neil Young, parce que j'avais jamais écouté Neil Young, mais le dernier album de Neil Young, là, je l'écoutais vraiment en boucle.
Et Bowie.
Et Bowie, ouais. Comme beaucoup de gens, Black Star avant le décès de Bowie et après le décès de Bowie, quoi.
C'est intéressant parce que ce sont les albums du Crépuscule, et je me pose la question, de quel Crépuscule est-ce que vous parlez, vous, dans Vernon Subutex ?
Bah, j'imagine que je parle du Crépuscule du XXe siècle dans ce livre, du passage d'un moment à l'autre, et j'imagine et j'espère que je parle aussi d'une aube, conjointement à ce Crépuscule, qu'il y a quelque chose d'autre qui s'annonce. Juste après, et que ce quelque chose d'autre, justement, là, pour le coup, dans ce feuilleton, on ne sait pas encore exactement ce qui se passera dans cette saison prochaine, mais il peut se passer aussi des choses agréables ou positives, non ? Ou des surprises. On n'est jamais à l'abri d'une surprise agréable. Là, on a l'impression que ça peut que aller vers le pire, mais peut-être que on n'est pas à l'abri d'une surprise agréable, à savoir.
Quand on prend l'œuvre dans son entièreté, Vernon Subutex, c'est aussi le crépuscule d'une certaine culture de marge, Virginie Despentes, qui s'est institutionnalisée. Votre livre s'en fait sans cesse le témoin. Est-ce qu'on vit dans un monde où ce qui est souterrain, ce qui échappe à la culture dominante, ça peut encore fonctionner ?
Ça peut encore fonctionner, mais je crois qu'il faut inventer les moyens, par exemple, de se protéger du regard des autres, tout en réussissant à se diffuser et à exister. C'est-à-dire, effectivement, il ne faut pas s'exposer à la censure de je ne sais quel crétin qui ne comprend pas ce que tu fais et qui va vouloir t'empêcher de le faire. Normalement, légalement. Et donc, ouais, je pense qu'il manque encore, peut-être des stratégies pour la diffuser. Ou alors, c'est moi qui ne suis pas au courant de ce qui se passe comme culture underground. Et donc, ça s'est dérobé à mon regard. Mais de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il manque des formes de diffusion. Ouais.
En tout cas, la musique, ça reste pour vous plus que jamais un moyen de fédérer des gens qui n'ont rien à voir hein, les uns avec les autres. Dans le livre, les personnages qui gravitent autour de Vernon, ils se réunissent dans ce que vous appelez des convergences. C'est quoi une convergence ?
Dans le livre, les convergences, c'est à peu près tous les deux mois, les gens vont se rassembler, c'est une rêve, quoi. C'est une forme de rêve, sauf qu'il n'y a pas de drogue, et ils vont danser tous ensemble dans une sorte d'hypnose collective. Et du coup, le groupe autour de Vernon, son activité à longueur de temps, c'est ça, c'est préparer les convergences d'une session à l'autre, quoi. C'était à la fois quelque chose de totalement futile et gratuit et un peu idiot. Et en même temps, j'aimais bien cette idée justement qu'ils mettent leur énergie à quelque chose qui est pas productif, qui est pas sérieux, qui est pas viril, mais qui est simplement de se rassembler pour danser à intervalles réguliers dans des endroits différents.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience mystique, non ?
Je crois, oui, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience. Pas dans le livre, de façon très évidente, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience mystique.
Qu'est-ce qui est le plus mystique chez vous, Virginie Despentes ?
Ça doit être ça. Ça doit être le rapport que j'ai à la musique. Le rapport le plus mystique chez moi, ça doit être le rapport que j'ai à la musique. Ouais.
Ça veut dire rapprocher l'expérience musicale, l'expérience religieuse, faire du musicien une sorte de messie ?
En l'espèce, dans Vernon, c'est ce qui se passe, c'est ce que je fais. Ouais, c'est pas.
C'est ce que vous cherchez, vous ? Une sorte de messie ?
Non, je cherche pas une sorte de messie, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse inventer d'autres façons de croire. Qu'on ait besoin de se raconter des histoires et d'y croire, et que ce soit des histoires fondatrices, je crois que c'est pas une mauvaise chose en soi. Qu'on invente d'autres histoires que les monothéismes qu'on connaît, ce serait bien. Ça veut pas dire que c'est réellement une religion, mais c'est l'idée que j'ai développée quand même dans le 3.
Alors quel genre de messie est-ce qu'il serait, Vernon Subutex ?
Un branleur. C'est ce que j'aime bien. C'est un branleur, c'est un loser, c'est un mec qui a une virilité très passive, et en même temps, pourtant, il se passe des choses autour de lui. Il arrive tout le temps des choses, il s'engage dans les choses. Mais c'est un peu un crétin. Moi, ce qui m'est très sympathique chez lui, c'est ce côté un peu justement, c'est pas le Che Guevara, gars. Ça, c'est sûr que c'est pas Chavez, c'est pas le mec qui va pas prendre le pouvoir sur la nation et établir une nouvelle autocratie. Et j'aime bien cette idée que ça se passe autour de la musique. Et je pense qu'une chose que j'aime bien de la musique, c'est que c'est un endroit où tu peux être un peu crétin.
Moi, mon messie, c'est lui. Bowie et Lazarus que vous citez en exergue de votre troisième tome de Vernon Subutex, vous vous souvenez ? Look up here, I'm in heaven. Regardez, je suis au paradis, j'ai des cicatrices qui ne se voient pas, j'ai mon histoire, vous ne me la volerez pas, tout le monde me connaît. Maintenant, vous êtes sur France Inter avec Virginie Despentes, vous écoutez Boomerang.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. By the time I got to New York.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'être à côté d'elle, c'est un petit peu comme être à côté d'un radiateur en plein hiver, hein, dans une pièce climatisée un jour de canicule, ou assis par terre sur un coussin moelleux, entouré, enroulé dans un plaid en polaire lors d'un spectacle nocturne en plein air. Elle fait du bien. Toujours aussi grande et alerte, carré blond, qui n'a rien à envier à ceux des adeptes du serre-tête de velours, regard bleu, un peu cerné, dans lequel on se noirait volontiers. Elle a pas mis le super t-shirt qu'elle nous avait promis. Il est blanc, son t-shirt. Blanc comme elle, Virginie Despentes, invitée de Boomerang ce matin pour le 3e tome de Vernon Subutex. Tex Vernon, on le disait, cet ancien disquaire marginalisé d'une cinquantaine d'années et autour duquel gravite une foule de disciples pour le moins hétéroclites, de l'ex-trader cocaïnomane à l'ancienne star du porno en passant par la SDF Amie des Bêtes, le scénariste père de famille d'extrême droite ou l'agent secret lesbienne La Hyène que vous pistez depuis belle lurette. La question qu'on se pose quand même, c'est qu'est-ce qu'ils font ensemble, tous ces gens ?
Bizarrement, ils font équipe, parce que c'est vrai qu'ils n'ont rien à faire ensemble, ils n'ont même pas tous, il n'y a même pas une catégorie d'âge, ils ont Il y a pas mal de quadras, mais pas tous. Donc, ils font équipe, ouais. C'est comme une histoire d'amour, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, c'est comme ça, je l'imagine, mais à plusieurs, quoi. Ils se rencontrent, et sans savoir exactement pourquoi, depuis le tome 2, bon, ça se passe autour de Vernon, mais on sait pas. Ils s'entendent. Ils s'entendent et ils peuvent fonctionner ensemble.
Donc là, dans le tome 3.
Bizarrement, parce que franchement, il y a pas de... Alors, en général, c'est des blancs, il y en a plusieurs qui sont, mais même pas tous, enfin, à chaque fois, c'est même pas tous, quoi.
Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un groupe tienne?
Bah, je pense qu'il faut qu'on, déjà, il faut un désir commun, et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment exactement comme entre les gens, je pense que c'est quelque chose, tu peux pas décider, on va se réunir, et on aura envie d'être ensemble, et on aura envie de faire quelque chose ensemble, quoi. C'est vraiment quelque chose qui arrive, c'est un peu, c'est comme une harmonie, c'est un peu au-dessus du groupe, c'est au-dessus de toi, et ça, tiens, tu peux pas savoir exactement à quoi.
Un chef aussi?
Une direction, en tout cas, ça aide. Je pense que tu peux avoir plusieurs chefs, plusieurs leaders, mais tu peux pas avoir aucune direction, quoi. T'es obligé de savoir à peu près ce que t'as envie de faire, même si c'est quelque chose de crétin, comme dans leur cas précis, organiser des soirées dansantes, hein. T'as besoin d'avoir un désir de faire quelque chose et de te dire, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la première chose que j'ai envie de faire dans la journée et c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Et puisque maintenant je peux le faire, je vais le faire. Je pense que c'est ça qui fait qu'un groupe peut fonctionner.
Entre nous, Virginie Despentes, est-ce que ça vous manque d'être en groupe, vous, cette notion de collectif qui se heurte, parlons franchement, à la solitude de l'écrivain?
Alors, j'arrête pas de le dire, que ça me manque. Déjà, oui, c'est vrai que le fait d'être écrivain, c'est aussi pour ça que j'aime bien avoir la chance de pouvoir alterner en faisant des films, parce que j'aime bien retrouver quand même le travail de groupe qui est différent. Mais là, j'arrête pas de répéter que ça me manque, l'expérience de groupe. Et du coup, je reçois énormément de mails de gens qui me disent « Mais alors, viens dans mon groupe. » Et en fait, je cherche pas un groupe. Oui, ça me manque, et pourtant, je cherche pas un groupe, parce que c'est vrai que là, c'est une contradiction. Là, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est écrire un prochain livre. Et pour écrire, évidemment, le mieux, c'est encore de rester enfermé chez toi, quoi.
Mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, quand on lit Vernon Subutex, ce qui est passionnant avec cette notion de groupe et de collectif, c'est que vous ne cessez de l'interroger en expliquant ce qu'il peut avoir d'utopique aussi. Voilà ce que vous faites dire à l'un de vos personnages dans ce 3e volume. N'empêche que sur le fond, tout le monde est d'accord. Exclure les impurs, les impropres, les empêcher de s'exprimer. Créer une catégorie de massacrables. Les frontières varient, mais le jeu des gardes-douanes reste le même. C'est toi dehors. Je veux pas de ça chez moi. Le seul critère variable, c'est qui on met dans les camps, qui est torturable, charniérable, qui mérite d'être exclu. La seule chose qui nous intéresse, c'est de légitimer la violence. Il faut que ce soit pour la bonne cause, parce qu'on veut bien avoir du sang sur les mains, mais en gardant bonne conscience. Ce que tout le monde cherche, au final, c'est l'entre-soi. N'avoir à scoltiner que des gens qui te ressemblent, pas d'étrangers. Et le ciment le plus facile à trouver pour souder un groupe restera toujours l'ennemi commun.
C'est quelque chose qui me frappe. Je suis énormément sur Internet, donc je lis énormément de déclarations des uns et des autres, et quelque chose qui me frappe, c'est déjà accepter que la violence, on peut la fétichiser sans se poser aucune question. Je me dis pourquoi pas, hein, mais sans se poser aucune question, ça me paraît dangereux au bout d'un moment, mais aussi donc, la violence qui doit s'exercer contre l'ennemi. On a chacun un ennemi différent, et à la fois tu te dis... mais alors qu'est-ce qu'on va faire de tous ceux qui sont pas d'accord avec nous? Parce que tous on a notre petit ensemble, et tout le reste, qu'est-ce qu'on va faire de tout le reste? Donc est-ce que chacun d'entre nous, quand on imagine un projet de vie de groupe, est-ce que chacun on imagine qu'on va quoi, exterminer les autres, les renfermer les autres, lobotomiser les, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et c'est l'un des trucs les plus compliqués, c'est que réellement on est nombreux, on n'est pas d'accord, on voit pas les choses, on se raconte pas la même histoire.
Donc,
on se raconte tous des histoires différentes. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont pas du tout d'accord avec nous? Et je pense que si on imagine une pensée de gauche, il faut qu'on réussisse à un moment donné à inventer quelque chose qu'on n'a pas inventé. Parce que dans la prison, on voit bien, c'est pas l'extermination, ouais, on l'a fait, les camps, d'accord, mais il doit y avoir une autre façon de se dire, ok, on se raconte pas la même histoire, comment est-ce qu'on va faire pour vivre au même endroit quand même?
En ce sens, votre livre, Vernon Subutex, dans son ensemble, hein, par les rencontres, par les frottements qu'il propose entre les personnages, par les réflexions, par les possibilités, il résiste
Et résiste au sens où là, il s'agit d'un groupe de gens, d'une équipe de gens qui cherchent encore à inventer quelque chose d'autre. Et de ce point de vue, oui, ils sont résistants au sens où ils ne sont pas résignés à se dire tout est foutu, les utopies, on n'y arrivera jamais, demain ce sera comme aujourd'hui, mais en pire, l'ultralibéralisme, de toute façon, c'est un avenir absolument indépassable, de toute façon, l'argent, la guerre, tout ça, ça on ne peut pas s'en passer. Ils résistent à ce niveau-là au sens de dire je me contrefous de passer pour un imbécile, je vais croire qu'on peut imaginer autre chose et qu'on peut évoluer vers autre chose. De ce point de vue, ils résistent.
C'est de l'espoir. La littérature.
C'est, en tout cas, c'est une porte pour parler d'espoir, ouais, pour en transmettre un peu, que ce soit. Et ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on essaie de transporter un tout petit peu d'espoir, de parler un tout petit peu d'espoir, on est imbécile. Et on le sait qu'on est imbécile. C'est vrai, en général, ça a échoué. Mais c'est pas parce que ça a échoué 40 000 fois qu'une 41e mille fois, ça pourrait ne pas donner quelque chose de positif.
Alors vive les poètes imbéciles. Merci infiniment, Virginie Despentes, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que le troisième et dernier tome de Vernon Subutex est publié chez Grasset, que c'est une radiographie aussi pertinente qu'exaltante de notre pays, comme on vous en remercie tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après le tout dernier Camille, dont les titres du nouvel album Oui, qui sortira vendredi, sont à découvrir toute la journée sur notre antenne, dans le cadre d'une journée spéciale. Ça, c'est de la balle. Ce matin, l'assaut, ça fait comme ça. L'assaut Camille sur France Inter. Et c'est l'heure de l'instant M avec Sonia.
Qu'est-ce que c'est bien, on devrait monter une petite chorale tous les deux, Augustin.
Waouh. Bon, écoutez, on va se voir demain, hein, Sonia.